Il y a trois sortes d'intelligence. L'intelligence humaine, l'intelligence animale, l'intelligence militaire. Aldous Huxley, 26 juillet 1894 à Godalming et mort le 22 novembre 1963 à Los Angeles, est un écrivain, romancier et philosophe britannique appartenant à une famille d'élite intellectuelle et britannique. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Nous sommes le 5 février 2022. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Notre thème du jour, l'armée de terre, métier et aide pour les étudiants. Pour cela, nous recevons le major O'Haraud, Jean-François, chef de centre du CIRFA de Compiègne, plus un interview de deux collèges. Monsieur O'Haraud, pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que veut dire CIRFA ?
Bien, mais déjà, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors, CIRFA, en fait, c'est Centre d'information et de recrutement des forces armées. Voilà, donc on est là pour informer, renseigner, conseiller les jeunes et puis les accompagner jusqu'à un engagement dans l'armée de terre, ben pour ceux qui ont la volonté de venir vers nous et lancer leur candidature.
Sylvie ?
Ben j'y vais. Donc en mars 2019, une émission sur la thématique « L'orientation pour tous, les métiers de l'armée » avait permis donc d'inviter Jean-François et vous nous avez donc contacté pour venir exposer les nouvelles aides de financement mises en place afin de faciliter les études des jeunes, mais aussi les motiver et les motiver surtout dans leur engagement de l'armée. Alors avant de commencer de parler de ces métiers de l'armée, moi j'ai deux petites questions. Alors on va commencer par la première. Quel est le rôle principal de nos armées françaises ?
Alors déjà, le rôle de nos armées françaises, c'est bien entendu de protéger notre territoire. En ce moment, tout le monde peut le constater avec la mission Sentinelle, hein, suite aux attentats de 2015. Voilà, on a mis toute une force militaire en place pour accompagner sur le terrain les gendarmes et la police. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, le rôle aussi de l'armée, c'est d'intervenir suite aux ordres du politique dans différents pays. Hein. On peut le constater aussi en ce moment au Mali, en Irak, Syrie, et puis on a aussi des forces en ce moment aussi stationnées en Estonie, Lituanie, voilà, dans les pays baltes, tout ça pour l'opération Lynx. Hein. Et puis on en parle aussi un petit peu, voilà, avec les tensions qu'ils peuvent avoir dans la région avec la Russie. Donc les forces armées sont sous le commandement du politique, en un pour protéger le pays et en deux pour faire des interventions là où on nous le demande.
D'accord. Et quelles sont les valeurs d'une grande armée ?
Alors déjà, les valeurs, c'est des valeurs de cohésion, de fraternité. C'est aussi être professionnel. Hein, pour ça, donc, on nous demande d'être exigeant envers nous, envers nos subordonnés, d'accomplir la mission le mieux possible. Voilà, il y a plein de valeurs qu'on peut trouver dans une grande armée. Et l'armée française, aussi bien terre, air et mer, on tend à ça et à former nos jeunes aussi à devenir des bons soldats.
Alors du coup, ça me donne une autre question là. Comment l'armée française est vue par les autres pays ?
Alors l'armée française, comparée à l'armée américaine, hein, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux en Afghanistan ou autre. Voilà, on est une petite armée, il faut pas se le cacher. Mais voilà, avec les moyens qu'on a, on fait du très bon travail. Et donc nos alliés, et en particulier les Américains, sont assez impressionnés de ce qu'on est capable de faire avec nos armées terre et air-mer. Voilà, pour les accompagner dans les missions et ainsi de suite. Et en ce moment, je pense que l'armée française est l'armée la plus compétente et en tout cas la plus opérationnelle au niveau de l'Europe. Hein. Les Anglais étaient devant nous pendant un certain temps, mais maintenant, ils ont aussi un petit peu régressé. Et sur vraiment le continent européen, si on prend pas l'armée britannique, c'est vraiment l'armée française qui est l'armée la plus opérationnelle. Au niveau de l'Europe.
Quoi. Oui, on l'a vu au niveau des casques bleus. si je ne me trompe pas.
Alors,
et au niveau des casques bleus, c'est, la plupart, ce sont des hommes français qui sont sur le terrain.
Alors, on fournit des casques bleus, notamment au Liban. Donc là, avec l'opération Daman, qui dure depuis les années 80, cette affaire-là, on fournit des casques bleus. On n'est pas les seuls fournisseurs. Mais c'est vrai que l'ONU, quand ils peuvent avoir des casques bleus français, ben, ils sont aussi partants. Mais beaucoup d'opérations maintenant sont faites plutôt franco-françaises ou sous l'égide de l'OTAN. Quoi.
De l'OTAN, oui. Voilà. Donc l'OTAN, c'est l'Amérique. L'Europe,
oui, tout à fait.
Donc l'Angleterre, voilà,
Ah oui, on va dire les armées, les trois armées entre guillemets vraiment qui constituent l'OTAN et qui sont qui donnent le plus d'hommes sur le terrain, c'est les États-Unis, la France et puis la Grande-Bretagne.
Oui.
Voilà.
D'accord. Ben merci. Donc globalement, les armées françaises sont classées par éléments de la nature, air, terre, mer. C'est très joli, d'ailleurs. Et le ministère des armées offre un panel de métiers très diversifié. Il a recruté au total 26 000 jeunes, militaires et civils, dont 16 000 dans l'armée de terre. On peut s'engager sans bac, donc là on devient militaire de rang, avec bac ou bac plus de sous-officier et au-delà, on est donc officier. Tout au long de la carrière, il est possible de suivre une formation et d'obtenir une promotion interne. Alors ma question, l'armée de terre recrute énormément, cela signifie-t-il que nous comptons plus de métiers ou de formations par rapport aux autres armées air-mer ?
Alors, en effet, dans l'armée de terre, on est les plus nombreux, on offre le plus grand nombre de postes, et c'est vrai qu'on a un panel de métiers quand même un peu plus conséquent. Même s'il y a forcément, on va dire, dans les domaines, que ce soit dans le domaine purement du combat, dans le domaine du renseignement, dans les domaines de la maintenance, informatique ou autre, voire même logistique, les trois armées fournissent des métiers dans ces domaines-là. Mais l'armée de terre avec peut-être un petit peu plus de spécificité dans certains domaines.
Quel domaine, par exemple ? Alors, je crois qu'on va y revenir après, mais bon.
Oui, alors, par exemple, dans le domaine du renseignement, l'armée de l'air et de l'espace, maintenant on l'appelle comme ça, fournit des choses dans le domaine du renseignement, mais j'allais dire sur le terrain, c'est surtout l'armée de terre qui offre le plus de spécificités et le plus de métiers là-dedans. Les forces spéciales aussi, chaque armée a ses forces spéciales, mais l'armée de terre est un petit peu plus nombreux par rapport à ça. Quoi d'autre aussi, après, dans tout ce qui est domaine informatique, là, je pense qu'on a un petit peu plus de métiers, parce qu'on est dans aussi bien de la maintenance, mais du développement, Mais, j'allais dire, toutes les armées ont des échantillons de métiers dans ces domaines-là, quoi.
Qui peut se ressembler, en fin de compte, surtout en informatique, peut-être.
Oui, tout à fait. Après, la marine, je prends un exemple, la marine offre des choses que nous n'offrons pas dans l'armée de terre. C'est par exemple, ils recherchent des fois des ingénieurs dans le domaine nucléaire. Pourquoi ? Parce que porte-avions Charles de Gaulle, les sous-marins nucléaires. Oui. Donc il leur faut des gens aussi dans des domaines pointus
bien spécifiés,
que nous n'avons pas dans l'armée de terre, quoi.
D'accord. Voilà. L'armée de terre recrute, alors je posais déjà cette question, un site d'information qui est s'engager.fr existe, mais quel est le parcours de recrutement et les conditions d'admissibilité ?
Alors, le site d'information s'engager.fr, c'est vraiment le point d'entrée pour tous les jeunes qui maintenant sont connectés dans la société. Ils peuvent prendre rendez-vous directement sur le site dans le CIRFA de leur région, donc le CIRFA de Compiègne pour l'Oise, pour les jeunes de l'Oise. Et j'allais dire que ça fonctionne un petit peu comme Doctolib, c'est-à-dire qu'ils ont carrément accès à nos agendas où ils peuvent positionner un rendez-vous quand ça leur... Quand ils le souhaitent. Sinon, ils peuvent aussi bien entendu appeler le centre de recrutement et là, dans un premier temps, c'est rencontrer un conseiller en recrutement, discuter avec lui, donc avoir ce qu'on appelle une information, prendre un dossier de candidature, si vraiment le jeune est volontaire et que les armées et l'armée de terre en particulier l'intéressent. Il monte son dossier, il vient déposer sa candidature. Le parcours ensuite, c'est qu'on l'enverra passer des évaluations. Donc là, rapidement, visite médicale, tests psychotechniques, des tests physiques et un entretien, comme un entretien d'embauche. Une fois que ces évaluations sont effectuées, le dossier revient vers son conseiller. Et ensuite, on discute voilà, par rapport à ce qu'il souhaitait faire dans l'armée de terre. Si il entre dans le profil, comme on dit, et ben on va lui proposer des postes dans ce domaine-là. Et si pour X raisons des choses ne vont pas, et ben à ce moment-là, ce n'est pas pour ça qu'on ne souhaite pas le recruter, le jeune. Et ben on va lui proposer peut-être autre chose où il va pouvoir s'épanouir dans l'armée de terre ou dans d'autres armées. Et une fois qu'il a fait ses choix, donc là, ses choix, bien entendu, de poste, mais aussi le temps de contrat qu'il souhaite effectuer dans un premier temps au niveau de l'armée de terre, et ben son dossier est orienté vers Paris, où là, il est mis en concurrence, j'allais dire, comme dans n'importe quelle autre entreprise, hein, avec d'autres jeunes qui souhaitent le même poste que lui au niveau national. Et ensuite, bah, si ce jeune-là, il a un bon dossier et qu'il est pris, et ben il intègre l'armée de terre.
Voilà. Et le minimum d'engagement, c'est combien ?
Alors, le minimum d'engagement, c'est l'armée de terre, on offre des contrats de un an.
Un an, d'abord. Voilà. D'accord.
Alors, ce genre de contrat, justement, c'est pour les jeunes, j'allais dire, qui ont des dossiers un peu faibles, ou aussi des fois des jeunes qui ont déjà eu un peu, comme je dis, des soucis avec la justice, hein, mais qui ont un profil qui peuvent nous intéresser, et bien à ce moment-là, on leur donne leur chance et à eux de montrer qu'ils sont aptes à être soldats. Et devenir. Et après, bien entendu, ils auront un contrat plus conséquent s'ils le souhaitent et devenir militaire. Quoi.
Et ce contrat d'un an, ça fait longtemps que ça existe ou pas ?
Oui, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Y a d'autres aussi, parce que l'armée de terre, on recrute bien entendu pour nous, mais il y a des spécificités comme les pompiers de Paris. Hein, ils font partie de l'armée de terre, hein, ils sont gérés au niveau carrière par l'armée de terre, mais ils sont dirigés par le préfet de police de Paris pour tout ce qui est intervention et ainsi de suite. Voilà. Mais les pompiers de Paris, en fait, offrent un premier contrat de un an. Alors eux, c'est pourquoi ? Parce que ben, forcément, là, la formation, elle est difficile.
Très difficile.
Il y a des fois des blessés, des choses comme ça. Et donc, ils préfèrent dans un premier temps que le jeune signe un contrat de un an. Et ensuite, s'il arrive au bout de la formation, et ben, là, il aura un contrat plus conséquent. Voilà. Mais sinon, nous, en tout cas, dans l'armée de terre, j'allais dire pure, le contrat d'un an, c'est vraiment pour faire donner une chance aux jeunes qui
doutent, qui ne savent pas où ils vont. Ouais.
Parce que là, on voit qu'il y a quand même, je regardais, il y a quand même pas mal de jeunes qui arrêtent leur contrat, enfin probatoire d'un an, qui arrêtent entre-temps 20-28% dans l'armée de terre, oui. Et en 2019 jusqu'à 31%.
Oui.
Et ben, dans les autres armées aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas, bon, comme il n'y a pas que dans l'armée, hein, dans les autres filières aussi, est-ce qu'il n'y a pas un doute chez ces jeunes à un certain moment ?
Ah ben là, tout à fait. Hein. Alors, dans un parcours de recrutement, le conseiller que je suis va rencontrer par exemple son jeune au moins 4 à 5 fois. Où là, on parle de l'armée de terre, on voit un petit peu comment il est renseigné, est-ce qu'il a bien compris ce que c'était être soldat et ainsi de suite. Voilà. Et malgré ça, en effet, on a un taux d'attrition assez conséquent. Hein. Le jeune, en fait, a une période probatoire vraiment de 6 mois dans l'armée de terre. C'est-à-dire, en gros, il a 6 mois pour faire demi-tour et casser son contrat. Mais bon, ça arrive que ça se passe aussi après 6 mois. Mais c'est vrai qu'on recrute beaucoup aussi parce qu'on en perd quasiment un quart dans la bagarre.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, en fin de compte, quand ils arrêtent leur contrat ?
Alors, bah, en fait, des fois, plus motivés, on voyait pas ça comme ça, trop difficile.
Je pense qu'au niveau physique, ça doit être très compliqué.
Un peu aussi, l'éloignement aussi de la famille.
Parce qu'on voit aussi, là je regardais, on voit aussi qu'il y a quand même de plus en plus de proportions de candidats médicalement inaptes. De 83, c'est passé, il y a quand même un pourcentage qui est passé de 80%, enfin, apte de 83% à 76% qui ont eu des problèmes de médicaments.
Oui.
Donc là, il marque aussi, bon, c'est vrai que c'est en général dans la société, hein, il y a un problème de vie sédentaire, il y a des problèmes de. Et bon, dans l'armée aussi, il y a des critères médicaux qui à respecter.
Ah, tout à fait.
Donc,
le jeune, en fait, la visite médicale, elle sert vraiment à ça. Chaque métier, si je peux dire ça, dans l'armée de terre, a ce qu'on appelle un CIGICOP hein, particulier, c'est-à-dire, voilà, pour faire caricatural, un cuisinier n'aura pas le même CIGICOP qu'un commando, quoi. Voilà. Mais bon, bah, des fois, le jeune, s'il ne rentre pas dans ces critères-là, ça peut lui fermer le poste, quoi.
Et quel est le pourcentage garçon-fille ?
Alors, les filles dans les armées, l'armée de terre, on est environ à 12-13% de femmes.
Oui, il y en a de plus en plus.
Voilà, notre objectif, hein, ça c'est la ministre des armées, là pour le coup c'est une femme qui nous dirige. La ministre des armées nous a fixé un objectif de 15%, l'armée de terre. La marine est à 17% de femmes et l'armée de l'air est quand même à 24% de femmes.
Oui, plus, oui.
Voilà, un soldat sur quatre en gros dans l'armée de l'air est une femme.
Ok. Mais
un alors... métier constant ? Il n'y a pas de...
Ah oui, aucun poste. Alors maintenant, avant, oui. Le seul poste qui était, entre guillemets, interdit aux femmes était dans la marine, dans les sous-marins. Maintenant, en fait, les dernières générations de sous-marins permettent d'accueillir des femmes. Et il y a un équipage, l'année dernière, qui est parti avec 4 ou 5 femmes à bord, quoi. Mais il n'y a pas aucun métier qui est fermé aux femmes dans l'armée de terre. Moi, ça m'est déjà arrivé de recruter des femmes combattantes de l'infanterie.
Oui, on verra tout à l'heure, je crois que tu avais demandé de chercher les pourcentages de femmes gradées, etc.
J'ai une dernière question.
Ah, vas-y, vas-y.
Une fois que quelqu'un s'engage dans l'armée de l'air, est-ce qu'il a la possibilité, au bout d'un moment, de dire « je voudrais partir dans l'armée de l'air ou partir dans la marine » ?
Ah oui, changer d'armée, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire...
Parce que ce n'est pas les mêmes formations
voilà,
au départ.
Voilà, ce n'est pas les mêmes formations. Au niveau gestion aussi, des fois, RH ou autre, voilà, ça peut poser problème. Alors des fois, il y a la chose toute simple, hein, c'est-à-dire on termine son contrat, on ne le renouvelle pas dans l'armée de terre et on revient, si on reste dans les critères d'âge, on revient s'engager dans l'armée de l'air ou dans la marine. Ouais. Ça reste possible parce que moi, dans ma carrière, j'ai déjà eu un jeune qui avait travaillé qui était marin, qui était sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et qui avait atterri dans l'armée de terre. Mais bon, ça reste quand même assez compliqué, quoi.
Mais dans ce cas-là, est-ce que la formation que le jeune a effectuée à l'armée de terre va être considérée s'il quitte et qu'il va dans une autre armée ?
Ah oui, tout à fait. Le jeune qui quitte une armée et qui repart vers une autre, hein, il peut être repris avec son ancienneté, voire même le grade dans lequel il l'a quitté. Ouais, oui, ça, c'est possible.
D'accord, parce que souvent on voit, moi j'ai le cas hein, dans ma famille, ils quittent l'armée au bout de 15 ans, donc ils ont une formation, ils ont des diplômes qui ne sont pas reconnus après dans le privé.
Ah,
ça,
alors,
c'est un petit peu dommage parce que, bon, oui. Un diplôme est un diplôme à l'échelon national.
Mmh. Alors maintenant, beaucoup de diplômes, j'allais dire, qu'on donne dans les armées peuvent être transformés au niveau...
Oui, voilà. Après, ils sont obligés de repasser quand même.
Oui, des fois, on nous demande,
voilà,
entre guillemets, de montrer les compétences.
C'est ça.
Mais bon, généralement, ils sont quand même reconnus. Et puis, ça, on peut en parler aussi ensuite. Hein, un jeune qui rentre dans l'armée de terre sans diplôme et qui fait 5 ou 10 ans de combattant de l'infanterie, métier qui n'existe pas dans le civil, hein, et ben, quand il quitte l'armée, il peut avoir une... comment dire, une reconversion, voilà, je cherchais le mot. C'est-à-dire, on a, dans l'armée de terre, on a une école pour ça. Qui va former le jeune sur un stage, par exemple, de plomberie, d'électricité, de mécanicien, pour qu'il ait un petit bagage pour pouvoir avoir un emploi
par
la suite, oui. Et en gros, hein, 70% de nos jeunes retrouvent un emploi dans le civil.
Rapidement.
Très rapidement. Parce que ben, le côté militaire...
Ça plaît beaucoup.
le militaire est rigoureux, le militaire est respectueux, le militaire arrive à l'heure.
Et ordonné.
Voilà. Donc,
j'aime bien, il arrive à l'heure. Hein. C'était pas le cas de moi et Jackie, c'est pour ça qu'on, qu'on rigole.
Donc, voilà.
Oui, alors c'est vrai que l'armée de terre hein, propose énormément de métiers. Hein. L'armée de l'air en propose une 60aine, la marine plus de 50. Moi, j'avais noté 400 métiers pour l'armée de terre. Cependant, 5 métiers dans l'armée de terre ont du succès, tels que juriste. Je ne sais pas si... Moi, j'ai vu ça sur Internet. Hein,
ouais,
je
ne
sais pas
oui.
si c'est vrai. Technicien informatique, officier de renseignement, génie civil et sécurité civile.
Alors, en effet, juriste, on a pas de mal à trouver des jeunes pour ce genre de poste, hein, des jeunes généralistes. Généralement diplômés.
Alors voilà, vous prenez quand même des jeunes diplômés qui ont déjà fait des études de droit.
Tout à fait.
Il n'y a pas réellement de formation au sein de l'armée, s'il doit y avoir quand
non.
même...
Non, là, ces jeunes-là, en fait, les juristes, ils vont rentrer au niveau officier avec minima bac plus 3 jusqu'à bac plus 5. Voilà pour ça. Alors, dans le domaine informatique...
Là, ça doit se bousculer, je pense.
On en recrute beaucoup, mais on a quand même du mal à en trouver. Ça, c'est un métier qu'on appelle en tension en ce moment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, qu'on offre des bourses maintenant aux jeunes... pour effectuer leurs études dans le civil. Et nous, on les aide financièrement. Et la convention, c'est qu'ils reviennent vers l'armée de terre.
Et officier de renseignement, ça doit plaire aussi aux jeunes.
Ah oui, ça, dans le renseignement, ça va du renseignement humain, ça va du renseignement par imagerie. Maintenant, quelque chose qui est très en vogue aussi, où on offre pas mal de postes, c'est les drones. Il y a le renseignement aussi qu'on appelle électronique. Donc là, bon, c'est des termes un peu barbares, détection et analyse des signaux électromagnétiques, des choses comme ça. Le renseignement, ça marche pas mal. Un jeune qui est compétent dans des langues, il peut être aussi ce qu'on appelle linguiste d'écoute, c'est-à-dire qu'on a des stations d'écoute entre guillemets qui espionnent, si je peux dire ça, les d'autres pays ou d'autres.
On espionne, tiens.
et voilà, et ben en ce moment on cherche de l'arabophone, du russophone, du chinois, et voilà. Donc s'il y a des jeunes qui ont des compétences dans ce genre de langue-là, il faut pas qu'ils hésitent à venir vers l'armée de terre. On recrute des jeunes aussi là-dedans, quoi.
D'accord. Voilà. Et en génie civil et sécurité civile ?
Alors, génie civil, on recrute en effet pour les unités de sécurité civile, c'est-à-dire que ceux qui interviennent sur les feux de forêt, les tremblements de terre, les choses comme ça. Donc ça, c'est aussi une branche de l'armée de terre. Et après, dans le génie, alors, on a des unités de génie, pour faire simple. Il y a le génie qu'on appelle combat, c'est-à-dire où là, on est plutôt dans le minage, le déminage, la destruction, des choses comme ça. On a une partie qu'on appelle travaux, où là, le jeune, il va faire plutôt des bâtiments, des checkpoints, des ponts, des routes, voilà. Et après, dans le génie, on a aussi une partie qu'on appelle production, où là, il va être là, en fait, pour produire de l'énergie, l'électricité. Et aussi, on a une partie eau potable, c'est-à-dire... quand on arrive des fois dans des endroits, l'eau n'est pas potable, et bien là, on a des unités qui sont là pour pouvoir donner aux militaires de l'eau potable... Donc voilà un peu le génie. Le génie dans l'armée de terre, c'est assez vaste.
Et vous avez encore besoin beaucoup en déminage
Ah oui, tout à fait. Là, au Mali ou même quand j'étais en Afghanistan, ceux qui ouvrent la route avec c'est le génie pour le déminage.
Mais vu le problème des médecins en France, vous n'avez pas ce problème-là dans l'armée, du point de vue médical ?
Alors, là, très bonne question. En effet, on a exactement le même souci au niveau des armées. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'armée de terre ne recrute pas de médecins. En fait, c'est le service de santé des armées qui recrute et qui forme tout ce qui est médecin, infirmier, pharmacien, vétérinaire. Voilà, tout ce qui touche le monde médical, c'est le service de santé des armées. Et après, les gens qui sont là-dedans et formés, ils sont répartis terre et armée. Mais on a un manque de médecins. Voilà, crucial de médecins.
Parce que moi, je sais que j'ai quelqu'un de ma famille qui voulait effectivement, dans la santé, rejoindre l'armée. Ce qui l'a un peu freiné, c'est parce que c'était une fille. Et en fin de compte, elle pouvait très bien se retrouver dans des combats aussi.
Ah oui,
Donc c'est ça qui l'a beaucoup freiné, parce que il y a toujours des soldats qui sont blessés.
Oui, en effet, ça peut arriver qu'on se retrouve au niveau des combats. Après, au contact avec la troupe, au contact de l'ennemi, nous dans l'armée de terre, on a ce qu'on appelle des brancardiers secouristes. En fait, c'est des gens qui vont être là
pour intervenir en primo,
mettre un garrot, mettre une première perf et ensuite essayer d'évacuer le blessé. Mais en effet, il y a aussi des médecins, des fois dans les convois ou des choses comme ça, ils sont sollicités, les médecins, et dans le recrutement, entre guillemets, le petit souci qu'on a, c'est que c'est le nombre de médecins dans nos groupements de sélection qui font en fait le nombre de jeunes qu'on peut envoyer en évaluation, par exemple. Mmh. Donc voilà, des fois, quand les médecins sont présents et disponibles, eh ben, on arrive à passer pas mal de monde et donc pouvoir recruter des jeunes assez facilement. En tout cas, les CIRFA n'ont pas trop de difficultés là-dessus, mais des fois, quand l'entonnoir se réduit au niveau des médecins, bah forcément, on envoie moins de monde en évaluation. Et donc là, le recrutement est un peu plus compliqué.
Actuellement, bon, on le sait tous, les nouvelles technologies sont certes très sollicitées, mais des profils de métiers manuels sont-ils encore recherchés? Je pense que la demande s'estompe, tels que les métiers comme la mécanique, l'électronique, la maintenance, les métiers de bouche. Et au CIRFA de Compiègne, dans quel domaine recrutez-vous le plus et les métiers de l'armée évoluent de quelle manière?
Alors, les domaines dans lesquels on recrute le plus, c'est vraiment les domaines du combat.
C'est étonnant.
C'est-à-dire que le jeune arrive dans mon bureau, et ben des fois il a un CAP de mécanique, mais il veut pas faire ça à l'armée. Il va, lui, ce qu'il voit, c'est le côté qu'on appelle, nous, dans notre jargon, Call of Duty. Hein, c'est vraiment le terrain, l'adrénaline. Voilà. Donc, il va rechercher une branche combattante, l'infanterie, l'artillerie, les chars. Bon, passons. Voilà. Ensuite, on recrute aussi, bien entendu, des mécaniciens. Moi, je n'ai pas recruté des jeunes toute ma vie. Hein, ça fait même pas une dizaine d'années que je fais ça. Mais pendant plus de 25 ans, j'étais mécanicien à l'armée. Et donc, et des mécaniciens, on en cherche. D'ailleurs, on va aussi en parler. On est même en train de recréer une école pour former un peu ces gens-là et récupérer des jeunes vraiment jeunes, les former et pouvoir les faire entrer dans les régiments. Donc, voilà, la restauration.
Surtout que maintenant, dans le public, je veux dire, les formations en mécanique, il faut les chercher. Hein.
Oui.
Il n'y en a plus beaucoup. Hein.
Ah oui, mais nous, moi, dernièrement, au mois de février, là, c'est-à-dire cette semaine, parce que les jeunes sont venus signer leur contrat au CIRFA, j'ai recruté un jeune qui n'avait pas de diplôme en mécanique, mais dans son parcours, j'allais dire, après l'école, hein, il avait fait, il avait travaillé dans un centre commercial, dans un premier temps, et il avait surtout fait deux stages de mécanique à Point S, pour pas citer le... Voilà, et ben ce jeune-là, même s'il n'avait pas de diplôme, voilà, il est motivé à faire ça, et ben nous, on le récupère, on va le former, et puis ensuite, il pourra s'épanouir dans l'armée de terre.
Et cette école de formation en mécanique, elle va se trouver où?
Là, elle va se situer à Bourges.
À Bourges, d'accord, voilà. Oui.
Et donc là... on offre, ça a commencé déjà il y a 2 ans en arrière dans des domaines bien précis où on recherchait on formait des bacs pro aéronautique, mécanique aéronautique et avionique, en fait tout ce qui concerne l'électronique des hélicoptères. Et là, on continue avec ce qu'on appelle mobilité terrestre, hein, c'est-à-dire vraiment pour être mécanicien de véhicules, de blindés, des choses comme ça. On ouvre ça aussi à tout ce qui est informatique et on va même faire des bacs STI 2D. D'ici 5 à 6 ans, là en ce moment, je ne sais pas...
C'est sciences techniques de l'ingénieur, c'est ça?
Voilà, alors il y a dans le domaine de l'environnement, énergie, des choses comme ça, parce que STI 2D, il y a plusieurs vecteurs. Mais en tout cas, là, ça commence... J'allais dire tout doucement, cette année, on va peut-être incorporer une centaine de jeunes, mais à terme, on va avoir plus de 300 jeunes formés dans différents bacs pour ensuite servir le domaine technique dans l'armée de terre.
Mais lorsque vous allez ouvrir ces écoles, il va falloir des formateurs. Ça sera des gens de l'armée, quoi, sont dans l'armée, ou vous allez essayer de prendre des professeurs autres
Là, en fait, c'est le Greta de Bourges qui fournit la partie formateur. Il y a aussi des formateurs militaires, parce qu'en fait, Bourges dans l'armée de terre, c'était déjà... Moi, je suis passé par Bourges pour avoir certains examens, pour aller en stage de spécialisation sur certains véhicules, des choses comme ça. Donc, dans l'armée de terre, c'était déjà, entre guillemets, l'école des maintenanciers. Voilà, donc là, on met cette nouvelle école de jeunes à cet endroit-là, mais c'est des gens, des professeurs civils qui vont venir faire cours. Mais par contre, les jeunes sont en internat, sont encadrés militairement, et à la fin de leur formation, bien entendu, signent un contrat dans l'armée de terre. Quoi.
Ah oui, d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du Greta, les professeurs ne vont pas être formés, admettons, dans les chars, etc. Ah. Donc là, je suppose que là, c'est l'armée qui
tout à fait. Nous,
taf,
voilà, nous voilà. On fournit un certain nombre de matériel. Mmh. Après, le jeune, une fois qu'il a obtenu son bac, il va avoir aussi, comme tout soldat de l'armée de terre, une formation militaire. Et après, il y a aussi des formations de spécialisation sur les hélicoptères purement, purement militaires, des choses comme ça. Quoi.
Et il y a combien de sortes de formations ?
Là, c'est Bourges.
C'est le seul.
C'est le seul.
Alors, c'est,
mécanique, carrosserie.
Voilà. Là, maintenant, c'est Bourges. Moi, je suis mécanicien, mais mon arme, comme on dit dans l'armée de terre, je suis de l'arme du génie. Et donc là, tout ce qui est, par exemple, spécialité du génie, bah, justement pour le minage, le déminage, les constructions, les choses comme ça, là, on a une école qui se trouve à Angers.
D'accord.
En fait, chaque arme de l'armée de terre a une école dédiée. Voilà. Mais la maintenance, c'est Bourges.
Ok, on va passer à l'armée et les jeunes, on va voir ce qu'ils en pensent, les jeunes. On nous parle de l'armée étant comme une famille, une équipe, avec la notion de partage et d'union. Les jeunes reçus au CIRFA, quelle image ont-ils de l'armée? Quels sont leurs discours et pourquoi s'engagent-ils le plus souvent?
Alors bon, bah déjà, la plupart du temps, ils ont quand même une bonne image de l'armée de terre. Ils viennent vers nous, j'allais dire, pour se sentir utile, pour vouloir être utile à la nation. Il y en a qui ont le besoin de s'affirmer aussi. Voilà. Dernièrement, moi, j'ai un jeune qui, en entretien, qui me disait ben non, moi, ma famille me dit d'abord, tu vas pas réussir à l'armée, ainsi de suite. Ben, en fait, le jeune veut prouver qu'il est capable de devenir soldat. Après, il y en a aussi qui viennent ben, parce qu'ils recherchent un peu voilà, le côté, j'allais dire, aventure, voyage. Ils ont tous les raisons, l'uniforme aussi.
C'est, l'uniforme,
c'est,
voilà, oui, oui.
C'est des choses qui plaisent aux jeunes déjà depuis l'enfance, si je peux dire ça.
Non, dans l'armée de mer, c'est vrai que j'avais un cousin, lui c'était les voyages, hein, voilà. C'était ça qui l'intéressait.
Voilà, donc, mais même dans l'armée de terre, maintenant, on voyage beaucoup. Hein, mais, voilà. Mais en tout cas, les jeunes, bon, ils ont leur, leur raison, mais déjà, ils ont la volonté de venir vers nous. Hein. Là, bon, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, le CIRFA, on a recruté 111 jeunes dans l'Oise. Mais on avait vu quand même, j'allais dire, plus de 300 jeunes venir vers nous, au moins pour avoir une information. Et voilà, après, ils ne lancent pas tous une candidature. Mais quelque part, à un moment donné, ils se sont dit « Ah, ben pourquoi pas l'armée ?»
Mais est-ce qu'avec la crise sanitaire, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un afflux de personnes qui ont, s'y sont dirigées vers l'armée, justement ?
Alors, au CIRFA de Compiègne, j'allais dire, nous, on a déménagé, on est dans des nouveaux locaux en face de la gare de Compiègne, à tout neuf, avec un beau visuel et ainsi de suite. Pour l'instant, on n'a pas encore vu vraiment le plus. Et en fait, on pense même qu'avec la reprise économique, on va peut-être... avoir plus de difficultés à recruter. Maintenant, ça, c'est que mon avis, mais voilà.
Mais donc, on vient voir que des milliers de jeunes à rejoindre l'armée, soit par envie, dévouement à la nation, dépit de ne pas trouver peut-être leur place aussi dans notre société. Quels sont les motifs qui poussent les jeunes à ce nouveau engouement? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un engouement pour l'armée, en fin de compte? Parce que souvent, elle est critiquée, cette armée aussi, hein, au niveau des jeunes.
Oui, alors je pourrais pas parler d'engouement, mais il y a beaucoup de jeunes, voilà, qui veulent ne serait-ce des fois voir un peu, voilà, qu'est-ce que c'est l'armée, qu'est-ce qu'on a proposé. Il y en a qui arrivent, qui sont bien renseignés, hein, c'est-à-dire sur nos missions aussi bien en France qu'à l'étranger. Il y en a qui sont là, mais comme on dit, qui ont vu de la lumière et qui sont entrés pour voir un petit
un
peu
ce qui se passait, voilà, s'il y avait un café à boire, par exemple.
Tout à fait. Mais bon, nous, on est volontiers, on discute avec les jeunes, mais je peux pas parler d'engouement.
Est-ce que vous vous rendez compte, les jeunes qui viennent, qui veulent absolument être recrutés dans l'armée? Est-ce que c'est souvent les fils et filles de parents militaires?
Alors ça, on en a, ça c'est vrai.
Est-ce que vous en avez beaucoup?
Non, on n'en a pas beaucoup. Alors peut-être plus sur des CIRFA parisiens où là se trouvent beaucoup les états-majors, les choses comme ça. On en a quand même, mais on n'en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que souvent, j'ai un cousin qui a fait l'armée, le grand-père ou des choses comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui leur a parlé de l'armée, et des valeurs de l'armée dans la famille. Pas forcément vraiment une famille de militaires, mais là, c'est vrai que la plupart du temps, il y a quand même un petit marqueur comme ça, quoi.
Alors nous, on va voir avec Gérard. Toi, tu as fait une interview, hein, un petit peu, voir ce que pensaient les jeunes. Comment ta question a été reçue par les jeunes lorsque tu leur as demandé de te donner un petit avis sur l'armée ?
J'aurais pas donné d'avis sur l'armée. J'étais très direct. Je préfère qu'on écoute d'abord et puis qu'on en reparle après. Mais allez voir, les réactions des deux jeunes sont exactement ce qu'on a dit tout de suite.
Hein. D'accord.
C'est tout à fait ça.
Vas-y, Luc.
Donc, Abigaël, Alexis, bonjour.
Bonjour.
Vous avez décidé plus tard d'être militaire.
Oui.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Eh ben, moi, je vais faire militaire plus tard parce qu'il y a de l'action. J'ai envie de faire ce métier aussi parce que il y a plein de choses à faire, donc ça...
Qu'est-ce que t'appelles plein de choses à faire ?
Ah, j'arrive pas à...
Ah, c'est pas grave, on va demander à Alexis.
Moi, c'est pour servir mon pays, pour le respect aussi dans l'armée, et parce que j'aime bien, c'est un peu ma passion, l'armée.
Et comment vous vous êtes renseigné sur les métiers de l'armée ? Vous êtes déjà renseigné ?
Oui, par Internet ou des reportages. Alors, quelle armée ?
Ah oui, c'est vrai, il y a de l'armée de terre, il y a l'armée de l'air.
Et puis la marine.
Ouais, moi je vais faire l'armée de terre parce que ça me pousse à aller vers là, je sais pas, c'est comme ça.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce métier ?
Bah, en fait, moi, de base, je voulais pas faire ça, mais je me suis dit, j'y vais parce que j'ai envie de le faire, et en plus, mes parents sont militaires, donc ça me donne encore plus envie d'aller là-dedans. Et je sais que si je veux aller là-dedans, mes parents, ils seront là pour m'aider, ils sont là pour tout.
Et toi, Alexis ?
C'est une passion. Bah, j'ai vu beaucoup de vidéos d'attentats ou plein de choses comme ça. Je peux servir mon pays en allant quelque part d'autre que France.
Et l'armée de terre, c'est ça, toi aussi ?
Oui.
Et tu voudrais participer à l'armée de terre à partir de quel âge ?
Dès qu'il y a 18 ans.
Sais-tu comment faire pour rentrer à l'armée ?
Juste qu'il y a des tests de physique, mental, il y a plein de tests.
Sais-tu que l'armée peut payer tes études pendant que tu serais à l'armée ?
Non.
Donc tu t'es pas renseigné là-dessus ? D'accord. Et toi, Abigail ?
Moi, c'est... Déjà, je sais qu'il faut être sérieuse parce que déjà, si t'es pas sérieuse, ils te prennent pas. Il faut être sérieuse, il faut pas rigoler. Quand le patron, il dit de faire ça, c'est pas autre chose. C'est...
La discipline.
Voilà, c'est ça.
Ça vous gêne pas trop ?
Moi, non.
Eh bien, merci beaucoup.
Donc on voit bien les réactions des enfants, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure.
Hein. Enfin bon, dans l'armée, moi j'ai vu, c'est très strict, faut pas rigoler, hein. C'est pas fait pour moi.
Donc on en avait un troisième...
Vous rigolez quand même.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est bon alors.
Il y avait un troisième, mais il n'a pas voulu qu'on l'enregistre.
Ah, c'est dommage,
non,
ouais.
Non, il n'a pas voulu, alors... donc, mais c'est exactement le
ouais, c'est marrant,
le même
c'est marrant,
fil conducteur,
une passion,
quoi.
Servir mon pays, l'action, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ouais. Franchement. Parce que moi, j'avais l'impression que les jeunes, en fin de compte, connaissaient pas trop notre armée. Et puis, en discutant avant de faire l'émission, si, ils voient ça à la télé aussi le 14 juillet, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont une assez bonne opinion, quand même, dans l'ensemble.
Et dans les forums étudiants, enfin, éducation nationale, oui. Est-ce que vous avez des... Comment sont les liens par rapport à...
Ah non, mais dans les forums... alors, nous, déjà, on participe... Dans l'année, on participe à ce qu'on appelle la campagne scolaire, c'est-à-dire un courrier est envoyé au niveau des armées à tous les lycées de l'Oise, hein, et ensuite, généralement, les directeurs, proviseurs ou autres nous calent un rendez-vous dans leur lycée pour parler des métiers des armées. Donc là, les jeunes viennent vers nous facilement. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, oui, il n'y a pas d'a priori ou quoi que ce soit. Et puis, on discute. Hein. Ensuite, par rapport à ce que disait le jeune, bon, bah, lui, ses parents sont militaires. Donc, forcément, il va être un peu aidé. Il va savoir quand même où est-ce qu'il va mettre les pieds. Mais nous, dans le projet du jeune, on essaye aussi vraiment de faire participer la famille, quoi. Voilà, que les, oui, que les parents participent au projet du jeune. Donc, c'est pour ça que... Alors, souvent, le jeune vient seul au CIRFA, mais on n'est pas contre du tout qu'il soit accompagné, justement, pour que les parents aussi soient un petit peu dans cette boucle-là.
Parfois, c'est un peu compliqué aussi pour les parents, parce que l'enfant, il faut qu'il s'éloigne énormément s'il veut suivre vraiment une formation.
Ah oui, oui. Bah, alors, dans l'Oise, en tout cas, pour l'armée de terre, il n'y a rien. Voilà, tous les régiments sont partis. Mais après, oui, on parle de ça. On parle de l'éloignement, on parle de la vie du soldat. Bon, il y a l'éloignement déjà en France, mais quand un militaire est envoyé en opération extérieure, c'est 6 mois, là, vraiment, parti de France, de la famille et des copains. Quoi.
Oui, donc, c'est ça. Et souvent, voilà. Ben, on n'a pas beaucoup de nouvelles pendant ces mois-là. Donc, vrai que c'est très compliqué pour la famille.
Bon, avec les technologies maintenant, oui,
c'est quand même mieux, effectivement.
Les nouvelles, oui. Moi, j'ai connu des époques où là, il n'y avait vraiment rien. Mais maintenant, ça va. On ne peut pas dire que le jeune ne peut pas communiquer.
Oui, c'est mieux maintenant.
Mais bon, voilà, c'est vrai que l'éloignement, ça peut être un souci. Mais si la famille a participé au projet et puis soutient le jeune, ça se passe très bien. Oui.
Alors, l'armée française est l'une des plus féminisées du monde. L'égalité homme-femme est très respectée au niveau du salaire. Mais moi, la question que je me posais, c'était ont-elles des aides complémentaires lors de déplacements ou de manœuvres à l'étranger vis-à-vis de leur famille, de leur enfant, par exemple?
Alors là, comment ça se passe? Le soldat, quand il part en manœuvre, en métropole, sur Sentinelle, par exemple, il y a des petites primes journalières. En fait, là, on ne regarde pas vraiment la famille ou des choses comme ça. Après, comme n'importe quel citoyen français, si on a 1, 2, 3 enfants, ben forcément, on a des aides hein, par rapport à ça. Quand on part en opération extérieure, et ben là, pareil, c'est un peu le même tarif pour tout le monde. C'est-à-dire que la solde, on touche une fois et demie en plus notre solde de base. Mais qu'on soit homme ou femme, dans l'armée de terre, c'est l'équité.
C'est l'équité, voilà.
C'est une major avec le même nombre d'années de service que moi, ben on touchera exactement la même paye, quoi.
Mais dis donc.
Voilà. Donc ça...
Ça, c'est bien, ça.
Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment l'ancienneté et le grade qui fait la paye. Voilà.
Ben, ça équilibre le tout. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a ce partage et cette idée d'équipe aussi au niveau des hommes de l'armée. Hein.
Et puis, bon, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, y a aucun métier de fermé. Les femmes participent pleinement dans l'armée de terre. Il n'y a pas de problème.
Avant de partir écouter la petite chanson. Je voudrais, Jackie, que tu nous donnes très rapidement les statistiques, le nombre de femmes et de filles engagées, quel pourcentage de femmes gradées par rapport aux hommes gradés.
Il y a quelques... Bah, déjà, sur sur les statistiques, enfin, sur les effectifs aussi des ministères, parce que c'est quand même une armée une petite, mais enfin, qui est quand même conséquente. En tout, en 2019, il y a pratiquement 270 000 personnel au niveau au niveau des sous-officiers, il y a 91 000. Au niveau des militaires du rang, il y a pratiquement 79 000 personnels. Des officiers, il y a 33 000, un peu plus de 33 000. Donc l'armée de terre représente le plus important des effectifs pour un total de 114 000. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Suivi de l'armée de l'air pour 40 400 et quelques personnels, puis de la marine pour 34 600. Alors les femmes représentent 21%. Un peu plus de 21% des personnels, tandis que les hommes représentent plus de 78% des personnels. Au sel militaire, la proportion des femmes chute à 16%, contre 80% pour les hommes. L'âge moyen du personnel militaire est de 33 ans. Pour les femmes, enfin 32 ans, un peu plus de 32 ans pour les femmes et 33 ans pour les hommes. Ainsi reporté l'ensemble des personnels, les militaires sont pratiquement 67% sous contrat. Contre un peu plus de 33% en carrière. Ce qui permet c'est un peu contradictoire et il y a peut-être une perspective de un petit peu de précarité au niveau des statuts
parce qu'il y a un peu plus. On en reparlera aussi, oui.
Alors là, il y a un complément au niveau des femmes. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'arriver à 15%, un peu plus de 15%, oui. Même pratiquement 16% au niveau du ministère qui disait au niveau des femmes. Soit un peu plus de 31 000 femmes sur l'effectif complet. Un peu plus de 6% des militaires sont déployés en OPEX, ce qui est quand même pas mal, je trouve, au fur et à mesure qui monte. Donc, dans l'armée de terre, il y a un peu plus de 11% de femmes. Dans la marine, 16%. Dans l'armée de l'air, c'est là où il y a le plus, 28%. Enfin, dans les effectifs militaires.
Vous voyez, tout à l'heure, avec mes 24%, voilà. J'étais en deçà.
Pas loin.
Donc, ça, c'est les renseignements ministères. Et après, dans les services de santé, c'est là où... Santé des armées et autres, c'est là où il y a le plus, plus de 57%. Après, dans les grades, il y a un peu plus de 14%. Dans les officiers, sous-officiers 17% et les militaires du rang 13%. Donc ça fait en général 37% des effectifs civils du ministère de la Défense. Le ministère, les militaires civils est confondu, le ministère de la Défense compte 54 000, un peu plus de 54 000 femmes. Donc, et ce qu'on disait, c'est le ministère, les armées ont de plus en plus la volonté d'augmenter au fur et à mesure et dans toutes les spécificités l'accueil des femmes. Et voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Nous allons continuer ce débat après notre petit intermède musical.
L'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon, ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. Mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. La 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je ne suis qu'un soldat. La 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 la. Non, je ne reviendrai pas. La 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 la. Je n'étais qu'un soldat. La 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 la. Prends soin de toi.
Notre thème du jour, l'armée de terre. Métier et aide pour les étudiants. Pour cela, nous recevons le major O'Haro Jean-François, chef de centre du CIRFOIT Compiègne. Pour continuer, aide pour financer les études. Sylvie.
Alors, dès la classe de 3e, hein, les jeunes peuvent rejoindre l'armée en intégrant une école de formation qui leur permettra d'acquérir un cursus gratifiant et en échange, un nombre d'années au sein de leur unité leur sera sollicité. Un contrat est donc établi entre l'armée et le jeune. Après l'obtention de leur diplôme, certains jeunes quittent l'armée et se tournent vers le privé. Qu'est-ce que vous faites exactement pour que les jeunes restent? Les aides de financement pour couvrir les frais d'études ont été créées. Quelles sont ces aides? Et l'armée a-t-elle misé plus sur du long terme que sur du, court terme? Voilà.
Voilà. Bien, alors là, les aides, en fait, on a misé sur du long terme. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est que le jeune donc fasse ses études dans le civil, sans tenir compte des ressources de parents ou autres. Hein, il va toucher une aide financière et sur ce qu'on propose et en tout cas sur les cursus sur lesquels on finance les jeunes, et ben en fait un travail l'attend dans l'armée de terre ou en tant que militaire durant, mais surtout plutôt dans le domaine sous-officier voire officier. Voilà, donc là sous-officier par exemple, il part pour un contrat d'emblée de 9 ans. Donc,
ah oui, 9 ans.
Oui. Voilà, en gros, il sait que si vraiment c'est quelque chose qui l'intéresse, parce que bon, la convention, elle est menée avec le jeune, donc il est bien conscient qu'il va faire ses études pour ensuite intégrer l'armée de terre, hein, comme si, j'allais dire, c'était une boîte comme Engie qui finançait les études d'un jeune.
Oui, bien sûr, voilà, donc on demande effectivement.
On demande un retour, donc là, si le jeune, il est conscient de ça, il sait déjà qu'il est parti pour un contrat de 9 ans dans l'armée de terre.
Alors ça, c'est pour un sous-officier, mais pour un officier, ça doit être plus, je pense.
Alors, pour un officier, les spécialistes qu'on recrute, eux, ils partent sur 5 ans. Mais ils peuvent aller au moins jusqu'à 20 ans de service dans l'armée de terre, voire au-delà, s'ils obtiennent certains examens ou concours en interne. Quoi. Voilà. Alors, les aides, elles partent du bac pro. Hein. Alors là, les bac pro, on a ciblé des bac pro plutôt de la maintenance, hein, que ce soit système numérique, mécanicien, des choses comme ça. Donc là, c'est quand même pour devenir sous-officier ou militaire du rang. Et là, c'est quand même 3 000 euros sur l'année du bac professionnel comme aide. Ensuite, bac techno, donc nos fameux bacs STI 2D, où on offre aussi des aides bac pro, géographie, des choses comme ça. En tout cas, le jeune, pour être sous-officier, pareil, la prime d'aide, elle est de 3 000 euros. Et ensuite, dès qu'on attaque le niveau BTS, licence, là, toujours pour être dans le domaine recruté dans le domaine sous-officier, là, c'est 4 000 euros par année. Là, mm-hmm. c'est pas 4 000 euros sur les 2 ans de BTS, c'est 4 000 euros par année de BTS. Et ensuite, quand on attaque la catégorie cette fois pour recruter des officiers, donc là, niveau licence ou master, et ben là, ça va de 7 000 euros pour une licence et jusqu'à 10 000 euros pour un master. Voilà. Donc, bon, on peut pas dire que l'aide soit faible. Hein. C'est vraiment quand même une aide conséquente. Et on attend donc un retour du jeune, bien entendu, par rapport à ça. Mmh.
Alors là, c'est pareil. Donc là, c'est comme un prêt, en fin de compte, parce que je suppose que vous ne leur payez pas totalement. Alors, je sais que lorsqu'on rentre dans l'armée, on est très peu payé. C'est souvent un SMIC. Mmh. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont être obligés de rembourser en fin de compte?
Non, là, il y a...
Il n'y a pas de remboursement.
J'ai pas la directive technique sous les yeux, mais le remboursement... Remboursement, il s'effectue si le jeune échec à, et voilà, je sais pas, il s'en va vers un master, au bout du bout il obtient pas son master ou il abandonne en cours de route, là en effet il y a un système de retour. Mais non, mais par contre les 10 000 euros qu'on lui a donné pour son master, et si il l'obtient et qu'il intègre l'armée de terre, ça a été une aide.
D'accord, c'est bien une aide. Voilà. Donc en fin de compte, voilà,
c'est pas un prêt étudiant. Hein,
voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Donc c'est super, c'est une aide. Oui. Donc il donne en échange années.
Tout à fait.
À l'armée.
Voilà, il donne des années de sa formation à l'armée de terre, dans les domaines sur lesquels, justement, comme je disais au tout début, dans lesquels on est en tension, quoi.
D'accord, donc il est obligé d'obtenir le diplôme. On est d'accord.
Oui.
Par contre, ce diplôme, il doit le faire dans un cursus militaire. Admettons, si il fait une formation qui n'existe pas au sein de l'armée et qu'il a fait à l'extérieur, dans le public ou en privé, oui. Ça se passe comment dans ce cas-là? Il est obligé de faire des stages dans l'armée en plus?
Là, en fait, on finance des aides sur des études que nous, on souhaite que le jeune fasse, ou en tout cas, voilà. Et ensuite, il intégrera l'armée de terre, par exemple. Là, il aura une formation militaire. Et après, si vraiment il faut lui faire des stages spécifiques sur certains types de matériel ou des choses comme ça, là, bien entendu, il le fera dans l'armée de terre. Mais à la base, son diplôme, c'est dans le domaine que nous, on souhaite recruter, voilà, et il obtient son diplôme et il intègre l'armée de terre. Mais pendant...
Oui, voilà, c'est ça, le diplôme n'est pas obligé d'être fait dans une école militaire.
Ah non, d'accord. Du tout, voilà, tout à fait.
D'accord. Vous avez peut-être autre chose à dire pour les aides
Non, et donc, moi, je reparle de la fameuse école donc, dans le domaine technique qu'on lance aussi. Hein, là, à Bourges, ça concerne à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 20 ans. Là, alors, il faut que le jeune, il ait, comme ça, comme critère principal, il faut qu'il ait eu quand même son brevet du collège. Et ensuite, simplement pour le faire intégrer l'école, il va venir prendre un dossier au CIRFA. On va lui demander un peu ses notes de l'année précédente. S'il est en seconde, il faut qu'il soit éligible à la montée en première, parce qu'en fait, là, il part vers un bac pro, par exemple. Donc, il va faire une première année de première et ensuite l'année de terminale de son bac pro. Donc, voilà. Une fois que le dossier est monté, la seule chose, entre guillemets, qu'il va faire, c'est une visite médicale pour être sûr qu'il puisse être soldat, hein, au bout du bout, parce que, je le rappelle, on est dans un premier temps soldat, et après, on a une spécialité. Et puis, il va voir, alors surtout pour les jeunes de 16 ans, chez nous, il passe devant un officier psychologue pour bien comprendre, là, pareil, que le jeune, il faut qu'il sache quand même qu'il va être éloigné de sa famille, qu'il va être en internat.
Mais oui, voir, surtout à 16 ans, c'est la fin de la troisième.
Tout à fait, voilà, voir s'il est prêt à ça. Et une fois qu'il a fait ces tests-là, son dossier est présenté toujours pareil, en concurrence à Paris, et s'il est pris, il intégrera l'école de Bourges à la rentrée scolaire, quoi. Donc généralement en septembre.
Ah, moi j'ai encore une petite question concernant cette aide en fin de compte, hein, qui n'est pas remboursable, voilà, que par année dans l'armée. En cas où le jeune, bon, admettons, il veut faire un BTS, donc il a déjà le bac, il fait un BTS sur 2 ans. Donc il a le droit à 2 fois 3 000 euros.
Oui.
C'est 4 000, pardon.
Oui.
4 000 euros. Mais seulement la première année, il rate, ou la deuxième année, il rate. Donc il doit redoubler. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe?
Alors là,
vous faites la tête.
Oui, j'ai pas la chose.
Parce que les redoublements.
Les redoublements, je pense que non. C'est-à-dire, si vraiment le redoublement, là, on lui fournira peut-être pas de nouveau les 4 000 euros. Mais après, s'il passe vraiment dans sa dernière année, 4 000. Voilà, c'est.
Oui, il faut le motiver un petit peu aussi. Hein,
j'ai pas ce qu'on appelle chez nous la directive technique sous les yeux, mais voilà, je pense que normalement. Après aussi. Le jeune n'est pas laissé, c'est bon, hein, débrouille-toi, si c'est moi qui ouvre son dossier, je suis son référent, je suis là pour le motiver, pour faire en sorte qu'il réussisse. Le proviseur, en tout cas le directeur de l'école en question, lui aussi, il reçoit un courrier de l'armée de terre en lui disant « Attention, ce jeune-là, il faut en prendre soin, parce que... »
Ah, vous avez le bras long, hein.
L'armée de terre compte sur lui, bon, voilà. Passons, mais voilà, le jeune, il est quand même aidé aussi bien financièrement, bien entendu, mais aussi il est suivi et on essaye de faire en sorte qu'il réussisse à obtenir son
diplôme. Et alors là, vos contacts avec les lycées, ça se passe comment? Ça se passe bien en général?
Oui, ça se passe bien. Après, le jeune, si c'est sa volonté, il n'y a pas de problème, quoi.
Voilà pourquoi il y a des agents de renseignement dans l'armée.
Non, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal, là, dans les statistiques aussi, on voit qu'il y a quand même pas mal de... Il y a quand même 34 000 décrocheurs qui ont été orientés vers les services militaires, notamment le service militaire volontaire.
Oui.
Donc, et d'autres sur le service militaire adapté ou les établissements d'insertion pour l'emploi. Donc il y a quand même pas mal De lien oui, avec tout, avec il y a un suivi.
Mais c'est ce qu'on disait dès le départ, hein. C'est une famille, on est là pour tout le monde, quoi.
Nous, on travaille avec le service militaire volontaire, le CIRFA de Compiègne. L'année dernière, on a orienté deux jeunes qui avaient vraiment des dossiers un peu trop faibles. Donc, quand même, qui n'était pas prêt à vivre la vie de militaire. Bon, passons. Donc ça, le SMV, très bien. On travaille aussi avec les EPIDE.
De Compiègne.
Oui, l'EPIDE de Compiègne.
Vous avez beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui, sont intéressés pour vous rejoindre.
Alors, ils ont
parce
des jeunes...
Parce que l'EPIDE, en fin de compte, ce sont des jeunes qui sont déjà en difficulté scolaire ou en difficulté avec le comportement.
Exactement, voilà, tout à fait. Donc là, l'EPIDE...
L'EPIDE, excusez-moi, je vous recoupe, mais avant, c'était l'armée, en fin de compte.
Tout à fait. Avant, ça s'appelait... C'était de la défense. Maintenant, c'est...
je ne sais plus le terme.
Pour l'aide dans l'emploi, l'insertion dans l'emploi. Voilà ce que ça veut dire, le HID de EPIDE, là.
Mais ils ont gardé un petit peu ce caractère de l'armée, un peu plus carré.
Bon, je dirais que, déjà, il y a pas mal d'anciens militaires à la retraite ou qui ont quitté l'armée, qui ont un peu une reconversion dans ce genre d'établissement. Mais pas que, mais disons que, voilà. Après, forcément, le fait que ce soit de l'internat, qu'il soit cadré et ainsi de suite, ça commence déjà à leur mettre un peu les habitudes du monde. Oui.
On avait fait une émission, d'ailleurs, il y a quelques années sur l'EPIDE.
Ça, on travaille aussi avec eux. Et après, nous, on rencontre aussi des jeunes dans tout ce qui est insertion pour les jeunes. Moi, je suis régulièrement à la mission locale de Crépy. Donc, on travaille avec les missions locales, les maisons de l'emploi et de la formation.
Oui, bien sûr.
Là, on a lancé un partenariat, je suis ambassadeur de Proche Orientation. Alors ça, en fait, c'est quelque chose qui se fait que dans les Hauts-de France, c'est les lycées qui sont aussi sur cette plateforme. Et s'ils ont des élèves ou une classe qui seraient intéressés pour avoir des informations sur les métiers de l'armée, ils me sollicitent directement via la plateforme et je m'en vais leur faire une information, j'allais dire quasiment personnalisé. Donc ça, c'est mis à disposition des professeurs pour pouvoir... ça ne concerne pas que l'armée de terre, un chef d'entreprise qui souhaite parler de son métier peut aussi intervenir avec cette plateforme Proche Orientation.
Et il y a beaucoup de lycées dans l'Oise qui vous contactent justement pour que vous veniez parler des métiers de l'armée.
Alors ça a été mis en place fin d'année dernière. Là, moi, j'ai déjà fait une intervention sur Beauvais. La prochaine, je vais la faire à Creil. Oui, je pense que c'est...
Il faut venir à Crépy aussi.
Il faut être sollicité, quoi. Alors, moi, après, dans le cadre de la campagne scolaire, je suis à Robert Desnos et à Jean Monnet, tous les ans. Je passe au moins une fois dans l'année.
Mes questions personnelles, vous avez des objectifs ?
Ah oui, tout à fait. Comme partout, j'allais dire. Comme tout bon soldat, il y a un point à atteindre, on va dire. Donc les objectifs. Alors les objectifs, on va faire les catégories dans l'armée de terre, trois catégories, les militaires du rang, donc ça c'est notre plus gros recrutement. Dans l'année, on nous demande d'en recruter entre 90 et 100. Après la catégorie des sous-officiers, donc là, bac à bac plus 2, on en a entre 12 et 16 à faire par an. Et après les officiers, au CIRFA de Compiègne, on nous en demande un à l'année. Alors, il faut savoir qu'il y a 105 centres de recrutement en France. On n'est pas les seuls à travailler, mais en tout cas...
Si les objectifs ne sont pas atteints, qu'est-ce qui se passe dans l'armée ?
Le major Boireau, il se fait punir. je rigole.
Il y a Madame Parly qui descend.
on essaye de faire en sorte... des fois, ils ne sont pas atteints. L'année dernière, on n'a pas eu notre quota de sous-officiers. Mm-hmm. Mais voilà, par contre, on devait faire un officier, on en a fait 4.
La balance, donc c'est bon.
Tout à fait. Mais en effet, on a des objectifs. Et 16 000 jeunes, c'est quand même assez compliqué à trouver parce que, on est quand même le deuxième employeur...
Oui, de France.
Oui, de France, là, dans la tranche 18-25 ans. Et il faut battre du terrain et la campagne pour pouvoir retrouver tous ces jeunes-là quand même, quoi. Voilà.
Alors c'est vrai qu'on voit qu'en 2021 et depuis 2016, le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs a baissé. Et l'armée de terre est aussi touchée par ce manque de sous-officiers qualifiés. Combien de temps faut-il pour former des personnes qualifiées et expérimentées dans l'armée ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, quelle stratégie mettre en place justement pour recruter des jeunes pour devenir officiers ?
Alors, nous, on considère qu'un jeune militaire du rang, il est rentable pour nous si au moins...
rentable
C'est-à-dire... Oh, non, mais...
Productif.
Le vilain mot.
Non, mais qu'est-ce que j'entends par là c'est-à-dire si au moins il fait 8 à 11 ans de service.
Oui, bien sûr.
Parce qu'en fait... le fait qu'il signe au moins 2 contrats dans l'armée de terre, lui déjà, il va avoir une certaine expérience, mais surtout, il va pouvoir nous aider à la transmettre, faire le lien avec les jeunes qui arrivent derrière.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien que le jeune puisse au moins, ce qu'on appelle la fidélisation, signer au moins 2 contrats dans l'armée de terre. Un militaire du rang peut aller jusqu'à 27 ans de service en ce moment chez nous. Par contrat successif.
Il n'y a pas de blocage au niveau des contrats. On peut faire des contrats successifs.
Alors, exigence, objectif, c'est que dans l'armée de terre, on doit aussi obtenir des examens aussi bien, j'allais dire, militaires que techniques spécifiques dans sa spécialité pour pouvoir progresser en grade et donc continuer à rester. Voilà. Le jeune qui vient chez nous en se disant « je vais mettre les pieds sous la table et puis je vais attendre que ça se passe et ça va bien se passer », ben non, ça va mal se passer. Voilà. Parce qu'on est noté, sur la valeur de notre travail.
Le comportement.
Le comportement, on est noté sur notre forme physique aussi. Tous les ans, les militaires ont des tests physiques à passer. Bon, voilà, passons. Les sous-officiers, là, même chose, pour monter en grade, on a certains examens à avoir. Et là, à un moment donné, ça marche différemment. En fait, ça marche par ce qu'on appelle des limites d'âge.
D'accord.
Un exemple, un adjudant, pour passer au grade d'adjudant-chef, il a jusqu'à 52 ans. Si à 52 ans, il n'a pas l'examen nécessaire et les notations nécessaires pour pouvoir progresser, on va le mettre à la porte, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Et après, les officiers, ça marche aussi un peu comme ça. Donc, voilà. On a tous, pour pouvoir rester, il y a des
examens, paliers.
Voilà, des paliers. Le grade de major, c'est un concours.
Justement, major, c'est où dans le...
Alors, major, c'est le dernier niveau de sous-officier.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est le grade le plus haut. Mais pour l'obtenir, on passe des épreuves. Donc, voilà. Alors, moi, à plus de 40 ans, j'ai dû me remettre dans les bouquins, remise à niveau en anglais. On fait une dissertation. Et une fois qu'on a passé un premier palier, on part, entre guillemets, faire ce qu'on appelle l'oral, quoi. Où là, on passe devant un jury dans notre spécialité. Donc, voilà. Et on passe aussi devant le général. Là, pour le coup, j'étais allé le faire à Bourges. Comme je suis maintenancier, donc je suis passé devant le général qui dirigeait l'école de Bourges à l'époque. Et donc, voilà, on tire un sujet au sort et on doit faire un exposé là-dessus qui dure 15 minutes. Et après, on est interrogé. Et voilà.
Donc, major, et après major, c'est colonel, alors, général, non ?
Non. Après major...
j'ai pas fait mon armée, moi.
Oui. Après major, j'aurais pu devenir officier, là, ce qu'on appelle par le rang, en fait. Voilà, moi, j'ai décidé de rester major, mais il y a encore moyen de progresser. Mais sinon, la plupart du temps, pour passer de sous-officier à officier, là, c'est sous forme de concours aussi, le concours de l'EMIA, et là, les jeunes intègrent l'école de Saint-Cyr et ont une formation... en officier, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc on va voir s'il y a des belles carrières à faire dans les armées. Les promotions sont-elles gérées par année ? Vous avez plus ou moins un peu répondu de service ou par dévouement de la nation.
Oui.
Comment êtes-vous devenu réellement major en réalité ? C'est parce que vous aviez vraiment envie de...
Ah oui, c'est... Alors, moi, je suis arrivé...
Parce qu'au départ, vous étiez quand même mécanicien, c'est ça ?
Oui, pour faire simple, moi, je suis arrivé... je suis originaire de l'île de La Réunion. Donc, à 16 ans, j'ai passé un concours pour intégrer, justement, une école qui existait à l'époque et qui est un peu en train d'être créée sous la forme de l'école de Bourges, là. Et donc, qui formait les mécaniciens, les électromécaniciens et les électroniciens pour l'armée de terre à l'époque. Voilà, donc j'ai été reçu au concours, j'ai intégré cette école.
Donc vous êtes venu de la Réunion.
Voilà, à Issoire, à côté de Clermont-Ferrand.
D'accord.
Donc là, 2 ans de formation pour obtenir, j'allais dire, l'équivalent d'un BEP en mécanique. Et là, ensuite, j'ai intégré un régiment à la sortie de l'école. Et là, j'ai commencé au grade de sergent, donc mes fonctions de mécanicien. Donc après, toujours en ayant ces fameux examens internes, j'ai pu progresser sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, voilà. Et adjudant-chef, généralement, comme une de nos valeurs, c'est l'exigence, c'est aussi le dépassement, j'ai dit, pourquoi pas major. Donc je me suis inscrit aux fameuses épreuves pour devenir major, et là, j'ai été reçu. Donc voilà, mais la personne qui a la volonté, qui s'en donne la peine, elle peut progresser, elle peut commencer militaire du rang. D'abord, je donne toujours l'exemple de mon CIRFA. On est 4 sous-officiers à recruter des jeunes dans toute l'Oise. Mmh. On est 2 à avoir commencé directement en école et être sorti, on va dire, d'école directement sergent. Et les 2 autres ont commencé militaire du rang. Mmh. Voilà, donc, et maintenant, ils sont chefs.
Alors, militaire du rang,
c'est simple soldat, on va dire. Voilà. Simple soldat, ils ont fait leur classe, comme on dit. Et puis, ils ont progressé. Ils ont fait une autre voie qu'on appelle la voie semi-directe. Parce qu'en fait, les régiments, ils sélectionnent leurs meilleurs militaires du rang et ils vont les envoyer pour devenir sous-officiers.
D'accord.
55% des sous-officiers de l'armée de terre ont commencé militaire du rang. Donc voilà, l'équité, elle est là aussi. Il y a moyen de progresser, quoi.
D'accord. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais on a écouté le soldat donc, de Florent Pagny. Et justement, la question suivante, c'est lors de conflits à l'étranger, les jeunes sont-ils prêts à affronter ce départ, hein, s'ils sont prêts pour un combat hors de France, sont-ils déterminés à obéir à un ordre ou l'armée fait-elle appel aux volontaires dans un premier temps? Quelles sont les options si un jeune refuse?
Alors déjà, à l'armée, on est tous volontaires. Et voilà, quand ils signent leur contrat, c'est bien indiqué
que
on est là pour servir la France H24 en tout lieu et en tout temps. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, non, c'est pas des volontariats. En fait, les régiments, c'est des unités combattantes qui sont constituées ensuite après de compagnies, on va dire de sous-unités. Si la compagnie ou le régiment même est désigné pour aller au Mali, le colonel, lui, il fait la liste, en tout cas, des sections et de ce qu'il a besoin comme matériel et tout ça. Et là, si on est désigné, on doit y aller.
Dans le cas où il refuse, il est obligé de quitter l'armée?
Dans le cas où il refuse, il sera déjà puni.
Quelle est la punition?
punition, c'est ce qu'on appelle chez nous des jours d'arrêt, c'est-à-dire que le jeune, il va passer devant le chef de corps, et puis il va prendre un certain nombre de jours d'arrêt, et puis ça, forcément, ça va être aussi un frein
pour sa carrière,
tout à fait. Donc voilà. Et puis en effet, si vraiment il refuse toujours d'aller en opération, à un moment donné, on va l'évacuer, il va quitter l'armée de terre. Voilà, ça c'est une première chose. Après, les jeunes sont quand même volontaires aussi dans le sens où un soldat, on s'entraîne
toute l'année.
Oui, voilà, toute l'année pour ça. Je vais pas dire que forcément qu'on a la possibilité d'aller faire notre métier et entre guillemets j'allais dire
pour
ce qu'on est préparé pour de
vrai. C'est pour quelque chose.
Voilà, donc là les jeunes ils sont quand même comme je vous ai dit, ils rentrent dans le CIRFA parce qu'ils veulent voyage, aventure, ils veulent de l'action c'est l'action.
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui refusent quand même? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui quittent l'armée à cause de ça?
Alors là, honnêtement, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des statistiques avec Monsieur Statistique.
Avec
Jackie. Non,
on n'a pas eu trop de statistiques là-dessus. On a eu surtout les statistiques au niveau de la période probatoire. Mais au niveau des parce que d'après ce que j'ai regardé au niveau des retours, c'est que les jeunes, quand ils ont cet engagement, ils savent très bien que c'est pour aller par la suite sur les théâtres d'opération.
J'ai un exemple personnel que je donne aux jeunes aussi bien en journée défense citoyenneté ou voire même les jeunes qui sont dans mon bureau. Je devais me marier le 3 juillet 99.
Et mince.
Et je me suis marié le 20 novembre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu l'affaire du Kosovo. On a décidé d'attaquer la Serbie. Mon régiment était désigné. J'étais chef d'atelier et tous les véhicules blindés du régiment partaient en opération. Ça a été garde à vous. Donc mon mariage, je l'ai reculé.
Elle devait être contente, madame.
Ah oui, elle était contente. mais voilà, c'est comme ça. Et
d'ailleurs, mis à part sur cette défense cette journée de défense du citoyenneté, il y a quand même eu pratiquement 94 000 jeunes qui ont eu accès à cette journée. Mmh. Et il y a un très gros pourcentage, apparemment, il y a 84% de jeunes qui sont très satisfaits de cette journée.
Oui.
Donc il y a quand même un retour vraiment, un très bon retour côté-là.
Parce qu'en fait, les jeunes, des fois, sont pas au courant de ce que peut leur proposer la défense, voire même de comment est organisée la défense du pays.
Donc, c'est vraiment
C'est vrai, on pourrait poser la question, qu'est-ce que vous pensez si on remettait le service militaire? Et moi, j'ai une autre question pour finir. Comment voyez-vous l'avenir de notre armée française?
Alors, on a été un peu... En tout cas, c'est mon avis, un peu en difficulté parce que c'est simple, hein, j'ai intégré l'armée de terre, il y avait 200 régiments, maintenant il n'y en a plus que 80. Voilà, on est passé d'une armée d'appelés à une armée professionnelle. Et pendant longtemps, c'était l'armée de terre, comme on n'a pas le droit de faire grève, on n'est pas syndiqué. J'allais dire, il ne faut pas se le cacher, les armées étaient l'endroit où on faisait des coupes franches dans les budgets pour pouvoir financer autre chose dans le pays. Là, c'est vrai que depuis, j'allais dire, depuis 7-8 ans, on a quand même, voilà, on va dire même depuis l'Afghanistan, où là, il fallait vraiment mettre les moyens pour faire face quand même à un ennemi et puis pouvoir être crédible sur le terrain. Donc là, des moyens ont été mis en place et il y a tout un programme pour ça, hein, c'est le programme Scorpion, là. Et donc, voilà, l'armée monte en gamme aussi bien au niveau matériel.
Matériel surtout,
On essaye de mieux former aussi nos hommes, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les armées progressent. Et moi, je vois très bien l'avenir de l'armée de terre. Hein, donc, et voilà. Et puis, je fais en sorte d'essayer de recruter aussi les meilleurs jeunes pour notre armée. Quoi.
Eh bien, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Jean-François pour cette émission. Celle-ci, Pédago Rando, sera diffusée pendant le mois de février, le vendredi 11 à 19h, le lundi 14 à 16h30, le samedi 26 à 17h et le mercredi 2 mars à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera la parentalité. Oh là, bien, j'ai...
Qu'est-ce que j'ai mal écrit ?
La parentalité. Voilà, je l'ai dit.
Parentalité, non, j'ai bien écrit en plus.
Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous. Oh, bah, ça va bien ce matin. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6valois-6mulcien.fr. Merci Luc à la technique. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Oui, au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie.